Direction la planète des singes, cette semaine pour un décryptage du nouvel opus de la saga et détour par Blue et compagnie, la nouvelle comédie familiale portée par Ryan Reynolds. Séance tenante saison 3 épisode 19, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance tenante, le podcast des cinémas pâté, le... Qu'est-ce qui se passe?
Non, toi, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Mais déjà, le podcast de cinéma.
Non, mais alors déjà, si tu fais un commentaire, je te demanderai juste de parler dans le micro. Il est en pleine crise d'adolescence, Gaël.
Je suis non, mais je suis en wire là.
Parce ah que ouais,
c'est Cannes, joli.
Il est en full diable de Tasmanie cette semaine. Vous l'aurez compris, Gaël est autour de la table. Bonjour.
Salut.
Également autour de la table, beaucoup plus calme. Robin, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et bonjour Lisa.
Salut Alexis.
Comment allez-vous?
Impeccable.
Est-ce que vous êtes prêt pour Cannes? Parce que je sais que Gaël est en pleine.
Moi, je suis en surchauffe, moi.
Les ventilateurs de l'ordinateur n'arrivent pas à réduire la température. Non, mais à ce point-là, c'est compliqué à organiser Cannes.
Ouais, c'est vraiment. Parce que je sais pas si je peux le dire à ce micro, mais tout le truc, c'est d'organiser 15 jours avec. Donc, sur la croisette, avec des dizaines et des dizaines d'interviews et de projections à coordonner, avec en plus une espèce de course un peu secrète, entre guillemets, avec les attachés de presse et les journalistes pour savoir quel film qui va à Cannes est montré avant Cannes pour pouvoir prendre de l'avance. Franchement, c'est 15 jours avant et 15 jours pendant qui sont vraiment éreintantes.
Oh là là, mon pauvre.
Mais on peut
avec
me plaindre.
Avec ces soirées.
Oh là 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 là, c'est terrible, hein. Voilà, regardez ce que fait Cannes sur un homme.
Ouais,
au final.
Alors solide en plus.
Ouais, ça va être, ça, solide comme un rock breton, bien sûr, la roche. Cette semaine, aucun rapport avec Cannes, mais on va se parler donc de la planète des singes, le nouveau royaume, le reboot suite de la saga culte. Je dis reboot suite parce que c'est pas un reboot parce qu'on est dans la pure continuité, mais reboot dans le sens où on part sur une nouvelle franchise au final, une nouvelle saga. Est-ce que c'est une nouvelle trilogie? Enfin, est-ce que de nouveaux épisodes arrivent après celui-ci? Mystère. En tout cas, on se parlera de ce film cette semaine et on se parlera aussi donc de Blue et compagnie. Je disais en intro, c'est la nouvelle comédie, on va dire coloré, de John Krasinski, qui n'est pas vraiment habitué à ça en termes de réel. Hein,
parce qu'on oui, dirait... après la petite tentative, non, même la réussite, parce qu'il avait fait qu'un film en tant que réalisateur de Sans un bruit.
Oui, petite tentative, on est sur une franchise qui est déjà à 3 films.
Qui a un carton.
avec un spin-off
dans le sens où c'était vraiment un projet très confidentiel de sa part qui, au final, a eu le succès qu'on lui connaît et avant qu'il retrouve la saga avec un prochain film.
Bien sûr. Sors les rames.
Bien sûr.
Oui, c'est vrai qu'il est déjà annoncé sur
un
prochain.
Le troisième. Ouais.
Après le Sans un bruit jour 1,
exactement.
Qui sortira le 26 juin cette année. Mais sans plus tarder, on se parle donc de la planète des singes.
Ouais.
Est-ce que vous êtes prêts à y aller?
Ouais.
Enfin, on y est
sur
déjà,
la planète
parce que c'est la nôtre.
Ouais.
Wow, ça fait réfléchir tout ça. Eh bien, embarquons pour la planète des singes, le nouveau royaume, un film à découvrir cette semaine chez Pathé, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et en ScreenX, un film réalisé par Wes Ball avec Freya Allan et Kevin Durant.
Pourquoi il la traque?
Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux.
Les anciens ne nous ont pas tout dit. Sur ce monde.
Prosterne-toi devant ton roi.
Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste.
Alors, je disais tout à l'heure, reboot suite. On en est où de cette saga de la planète des singes? Qui a envie un peu de nous présenter, de nous remettre un petit peu le chapiteau au milieu de la place du village? C'est pas du tout ça l'expression?
Non, pas du tout. Pas de,
mais tu peux me la donner?
L'église au milieu du village.
L'église, oui. Chapiteau. C'est mon âme d'artiste de saltimbanque. La planète des singes, donc, il y a eu une trilogie. Alors, récente,
il y en a eu d'abord,
il y en a eu plein.
Ah, ouais, c'est ça.
J'ai dit récente. Oui. Écoutez l'intitulé de la phrase.
On peut le résumer en deux phrases.
Il va être... Cette insolence.
Attention.
En deux phrases.
Cinq premiers films dans les années 70. Un reboot, remake, pas vraiment réussi par Tim Burton en 2001. Et une nouvelle trilogie à succès, instaurée dans les années 2010, puis continuée avec deux films de Matt Reeves.
J'aurais besoin juste de la retranscription de ce que tu viens de dire, parce que je vois pas commence la phrase et se termine.
Attends, il y a eu une trilogie...
Non, il y a eu cinq premiers films. Une première saga.
Ouais.
Cinq premiers films.
Non mais, ok.
Ensuite, le remake de Tim Burton.
On s'en fiche.
Voilà. Et la trilogie avec La Planète des Singes, Les Origines.
Ouais. Avec James Franco.
Exactement. Ouais. Puis les deux films réalisés par Matt Reeves, qui continue donc cette histoire de César.
Cinq films depuis 2011.
Ah oui, donc Gaël, il a eu...
Pas du tout.
Gaël, il est...
Si, on est au cinquième.
Depuis 2011, c'est le quatrième.
Ah, pardon, je croyais depuis 2001.
C'est dommage ce qui se passe, parce que ça commençait bien.
Donc, c'est pas une trilogie, puis deux films de Matt Reeves. Les deux films de Matt Reeves, chez vous,
tentez de recoller les morceaux.
Les deux films de Matt Reeves sont dans la trilogie,
Waouh. Alors, non, vous inquiétez pas. Votre application de streaming d'écoute marche parfaitement bien. C'est juste une imitation de Coluche, j'imagine, que vous venez d'entendre.
Pas mal.
Voilà. Je sais vraiment pas comment rebondir là-dessus.
Non, mais c'était plutôt clair.
Non, arrêtons.
C'était complètement clair.
Merci, Lito.
Après, c'est parti un peu en sucette.
Bref, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, et donc la suite de la trilogie qui date donc de 2011, donc qui a connu La Planète des Singes, Les Origines, puis L'Affrontement et Suprématie pour se terminer en 2017. Mais quand je disais oui, reboot suite, dans le sens où on est un peu sur un, j'allais dire presque un anglicisme, mais un legacy sequel, comme l'a été peut-être Top Gun Maverick, alors avec beaucoup plus de temps hein, entre les deux films, mais là parce qu'on est sur 7 ans depuis La Planète des Singes Suprématie, mais en tout cas on est dans le même univers, c'est-à-dire qu'on est plusieurs générations. Beaucoup de générations. Après,
300 ans, non j'ai
alors justement, j'avais entendu 300 ans, ouais. Mais au final, quand on a vu le film tout
oui,
à l'heure, c'est marqué
c'est
de non, c'est marqué plusieurs de générations. Il voilà. Y a un truc ouais. Genre nombreuses générations. Ouais. Bref, en tout
après,
cas,
on sent que le temps est passé par rapport à toute la direction artistique du film et les décors, notamment les restes de la civilisation. Exactement. Avec la nature qui a repris ses droits.
Et donc, peut-être juste pour donner un peu le pitch de ce nouvel opus. Donc, on est de nombreuses et nombreuses générations après, on va dire l'épopée de César, hein, ouais. Qui était le personnage principal
de César
et la révolte, et la pandémie qu'il y a eu dans le premier film qui a causé la perte des humains, etc. Et on va suivre donc une tribu de singes qui vit sa vie de manière tout à fait paisible jusqu'à l'arrivée d'un grand ennemi qui va un petit peu rabattre les cartes et qui va semer, j'allais dire la zizanie. Je sais pas si c'est le bon terme.
Grande pagaille.
Ça, c'est pour faire plaisir à toi, mon fan de Louis de Funès préféré, la zizanie, bien sûr. Avec également à l'affiche.
La zizanie, mais c'est Annie Girardot.
Exactement, bravo. Tu remportes un point.
Il y a un multivers qui est en train de se créer.
bref, donc voilà. La promesse de ce nouveau royaume réalisé par Wes Ball. Wes Ball que l'on connaît notamment de.
Labyrinthe.
Labyrinthe.
Et qu'est-ce qu'on aime dans Labyrinthe ?
Rien.
Tu remarqueras que je. J'allais dire, tu remarques.
La troisième insolence de la journée.
C'est une révolte.
C'est de pire en pire.
C'est une révolte.
La révolte de la planète des singes.
Je suis face à trois singes. Je suis le dernier humain face à ça. Non, parce que j'allais dire, pourquoi on aime. Qu'est-ce qu'on aime ? Je sais plus où j'en
vais. En plus, moi, je suis sur ta ligne, Alexis.
Ah,
tu le sais.
Ma ligne.
Tu le sais.
Eh bien, quelle est-elle, ma ligne ?
Eh bien, la série B.
Oui, tout
la
à fait.
Série B, la nervosité, tu vois. Lisa me regarde pas comme ça parce que non mais
vraiment bien, ça va.
C'est non mais moi je suis absolument d'accord avec toi, c'est-à-dire que le labyrinthe, je trouve, était une proposition de justement de young adulte, comme
clairement,
on disait
ouais,
à l'époque.
On avait parlé,
mais avec une nervosité, un sens de la série B, du timing, du suspense, qui était vraiment génial et qu'on retrouve absolument de la même manière dans cette planète des singes. Moi, c'est ce qui m'a fasciné. J'aime presque le contraste qu'il y a entre la super production
et la grandeur. Ouais, c'est ça, la grandeur.
C'est-à-dire
du
la
projet,
grandeur du décor, de évidemment de l'héritage qu'il doit maintenir, de la munificence de quand on arrive. Robin en parlait tout à l'heure. Quand on arrive dans ces décors dévastés, moi j'ai mis en fait quelques moments à comprendre que les immenses montagnes étaient en fait des immeubles.
Mais ça c'est génial parce que tout le film va jouer de ça.
On va
être sur une espèce de périple et de road trip avec ces personnages qui vont avancer dans cette planète dévastée, et puis au fur et à mesure ils vont rencontrer des bâtiments où de prime abord on comprend absolument pas ce que c'est, et puis au final il y a plus en plus d'indices qui montrent qu'on va croiser tel ou tel type de vestiges de la civilisation humaine. Et donc, tu disais que oui, c'est ce contraste-là...
Non, mais mélangé ouais. avec un sens du suspense et encore une fois de séquences hyper découpées, hyper palpitantes, que ce soit la première, le ravage du village, que ce soit les évasions... c'est, à un moment donné, ça devient un film d'infiltration. Non, en bleu. Donc, il y a vraiment un sens du cinéma qui est super excitant et qui déroule à toute vitesse.
Et je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où j'allais dire ça dénote pas, mais ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'avait proposé justement Matt Reeves sur les deux derniers épisodes, que j'adore hein, d'ailleurs,
mais
que
ça soit très théorique.
Oui, tout à fait, parce qu'on suivait le personnage de César et de quelques-uns enfin sa troupe justement face à l'ennemi humain. Mais là, je trouve qu'il y a un truc, enfin, la confrontation.
Quelque chose de très biblique même, ouais. de théorique ouais, vraiment. Ouais,
mais que va reprendre aussi ce nouveau film-là, c'est avec
vrai,
parce que
en sourdine quand même, en sourdine.
Tout à fait, en sourdine, mais en gardant César comme une figure biblique vers laquelle
prophète,
on. C'est ça, un prophète.
C'est d'ailleurs assez génial la façon dont César est présenté et mentionné dans tout le film.
Et en même temps détourné des fois, parce que c'est ça aussi qui amène le grand enjeu. C'est comment les gens se le réapproprient.
La bonne parole, d'autres noms.
Ça m'a fait penser. Attention. Première mention dans ce podcast, ça m'a fait penser à Dune deuxième partie.
Bah oui.
Et voilà.
Sur effectivement le personnage de le personnage de Chalamet. Mais moi, ce que j'aime, c'est que cette série B rappelle quand même quelque chose qu'on avait perdu progressivement dans la trilogie de Matt Reeves. C'est que le film original, enfin le premier, le film de Schaffner, est justement un truc hybride assez passionnant entre une grande parabole, une grande fresque métaphysique et un truc super nerveux de pure SF de cavalcade quoi. Et je trouve que la première trilogie emmenait l'héritage justement vers quelque chose de très métaphysique, un blockbuster d'auteur très, très profond avec beaucoup de sens sur l'humanité machin. Et là on revient à quelque chose de plus viscéral que je trouve vraiment, vraiment sympa quoi.
Moi, je pense que delà de l'aspect métaphysique, et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de la saga La Planète des Singes en tant que tout, tu vois, des années 70 à maintenant, c'est vraiment toutes les questions que ça pose sur notre humanité, mais sur notre société en tant qu'organisation, en fait. Moi, c'est ça qui me passionne le plus, c'est comment, en fait, une génération ou une espèce disparaît pour quelconque raison et comment une va la remplacer, ce qui est un peu, on va dire, la nature même de la nature finalement, de l'évolution, mais et comment en fait cette nouvelle espèce va s'embourber dans des lois, dans des carcans, dans des croyances, comme nous on l'a fait en fait. C'est comment en fait il y a un peu ce cycle vicieux finalement et pas vertueux qui se met en place, et je pense que c'est pour ça aussi que La Planète des Singes nous donne un peu un regard en fait vers l'avenir, et en fait tu te dis que t'es toujours coincé dans cette roue en fait. Moi c'est ça qui m'intéresse je pense le plus.
Et il y a quelque chose aussi de fort dans celui-ci, c'est que on le disait, il se passe longtemps après la dernière trilogie. Les humains étaient au cœur de la première, comme des vrais ennemis, comme des l'ennemi à abattre ou justement à affronter d'une façon ou d'une autre. Là il y a une humaine qui est le personnage un des personnages centraux du film qui va justement faire elle aussi avancer l'histoire.
Super.
Qui est génial.
Je l'ai trouvé hyper solide.
Freya Allan, pour ne pas la nommer, qu'on connaît notamment de The Witcher, la série. Oui. Et du coup, le vrai méchant de ce film, c'est un singe. C'est-à-dire que c'est un espèce de dictateur qui veut créer ce nouveau royaume et qui va se mettre sur le chemin, bah, d'une part de cette jeune fille et en même temps du singe que l'on va suivre, Noah, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, je trouve qu'il y a un rapport de force aussi qui est ultra intéressant dans la vision qu'ont les singes de remplacer. Enfin bref.
Puisque ça dit d'une dictature.
Aussi,
encore une fois, on parlait de religion, même d'un gourou, en fait, finalement, aussi. Donc, il y a toujours cette image-là qui revient dans le film.
Et ça va un peu à ce que tu disais, Lisa, où on voit que, justement, ce singe dictateur l'est parce qu'il prend exemple et modèle sur les vestiges de l'humanité et ce qu'il a pu en apprendre et en connaître.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant, effectivement, de voir comment... ceux
nos
qui...
vies se répètent,
exactement,
quoi.
Ça, et surtout les confrontations de... à la fois de symboles par rapport, on en parlait, à l'image de César qui reste et qui vraiment anime, je trouve, le film, même dans parfois des petits détails visuels qu'on retrouve à droite à gauche, et aussi dans ce que ça implique d'organisation de société, comme tu disais, Lisa, entre l'espèce qui apparaît pacifiste, mais qui doit également évoluer pour faire face à cette autre tribu de singes qui attaque.
J'allais dire, c'est bien beau ce que vous dites.
Un auditeur du podcast vient de rentrer dans la pièce. Bonjour, monsieur.
C'est bien beau ce que vous dites, mais on n'insiste pas assez sur la puissance visuelle de.
Ah, mais j'allais y venir, vous inquiétez pas.
Parce que quand même, je trouve que le film a une sacrée gueule. Et plus, à mon avis, que les trois Matt Reeves précédents.
Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, l'une des forces aussi de celui-ci...
Il y a un côté monde ouvert.
Il y a un côté monde ouvert, il y a un côté road trip, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il ait été tourné dans des décors naturels. Alors, forcément pas pour l'intégralité, hein, parce qu'il y a des plombs où c'est juste impossible de se retrouver dans ce milieu-là. Mais la beauté visuelle, justement... En fait, c'est marrant, alors je fais un parallèle avec un film que moi, j'apprécie pas forcément, qui est Dinosaur, film d'animation Disney.
Super.
Ouais, moi, j'ai
non, un... Pas très bon, non, c'est par Jamel.
C'est très bien, Jamel, mais peu de mal avec ce film d'animation. Bref, mais qui avait le mérite, justement, de tester cette technologie-là, parce que tout avait été filmé dans des décors naturels, et ensuite ils avaient rajouté les dinosaures. Donc on parle de ce film Disney sorti en 2000.
Un vrai film live, du coup.
Donc un vrai film live avec des dinosaures rajoutés en CGI, et, enfin en animation, ce qui est la même chose. Et aujourd'hui, donc c'est la même technologie qui est utilisée, sauf que à la place des dinosaures, on a des singes qui sont donc interprétés par des acteurs en qui vont interpréter ces personnages en motion capture. C'était le cas de la première trilogie avec l'extraordinaire Andy Serkis. Là, il y a toute une nouvelle équipe qui justement prend la relève, et on a un résultat visuel qui est dingue, quoi. Moi, j'ai encore des scènes en tête de gros plans sur des singes où vraiment mais c'est ça, et puis avec tout travail sur la lumière, sur la composition de l'image, sur la photo, sur le grain,
les
expressions. Il y a un truc sur l'animation, et surtout au-delà de... parce qu'il pourrait y avoir une très belle animation d'un personnage, très bien, mais c'est aussi l'intégration dans son cadre par rapport à la lumière, au reflet, aux discussions qu'il va avoir avec, au regard, etc. Et je trouve que le résultat est vraiment assez extraordinaire.
C'est vraiment un petit détail, une petite anecdote que je donne, mais je trouve ça très intelligent, la façon dont est introduit le langage des singes dès le début. Alors on sait que les singes parlent, ont évolué, mais on a quand même cette façon, je trouve, dans l'écriture et dans l'interprétation, de le faire accepter par le spectateur de façon assez subtile et progressive. On suit vraiment un trio au début, dès la scène d'ouverture, et je trouve ça intéressant de voir comment ils se mettent justement à parler entre eux pour ensuite aller dans quelque chose d'encore plus grand et mythologique.
Et peut-être qu'on pourra reparler justement de cette fin plus tard, parce qu'on va pas rentrer dans des spoilers aujourd'hui, mais voilà, mais je trouve que c'est un super résultat, c'est un super film, et c'est une super série B, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Gaël.
Je trouve aussi.
Il y a un truc de grand spectacle de divertissement avec une matière qui est qu'est-ce qu'elle est, et ça offre un vrai grand spectacle, mais ça reste une super série B.
Ouais, non, mais du coup, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure de série B, et en fait, le grand projet de Westball après Labyrinthe, on va dire. Je trouve que là où Labyrinthe marchait, en fait, alors là aussi, dans La Planète des Singes, il y a des archétypes, forcément. Il y a le grand méchant, il y a le jeune homme qui est en plein récit d'apprentissage, initiatique. Il y a ce genre de choses, mais je trouvais que le Labyrinthe, il y avait un côté très. Très surfait, en fait. Et je trouve qu'avec La Planète des Singes, même au niveau de la DA, en fait, au niveau des images, de la photographie, de la création des créatures, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être moins travaillé que son travail, en fait, aujourd'hui sur La Planète des Singes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec Labyrinthe à la base.
Mais laisse Labyrinthe tranquille, on n'en parlait pas depuis si longtemps.
Oui, non, mais au niveau des personnages, même si on est quand même dans des archétypes, que ce soit dans Labyrinthe ou dans La Planète des Singes, je trouve qu'il y a un travail, comme on disait, même sur l'effet, la technique des expressions, par exemple. Il y a un travail, alors c'est dû aussi avec l'évolution elle-même, mais je trouve qu'il y a un travail plus fort qui a été fait, en fait. Je pense qu'il y a une vraie évolution de son cinéma, lui, à la rigueur, quitte à avoir des mêmes obsessions ou à aller vers des univers comme ça, dystopiques, dans l'urgence, dans la tension, ça, je suis complètement d'accord. Mais je trouve qu'il y a une certaine évolution sur l'écriture, en fait. Voilà.
Et on verra.
Il n'est pas convaincu,
Gaël. Non, je suis d'accord, mais je pensais aussi que ce n'est pas le même calibre de budget, quoi.
Oui, oui, pas la même époque. Voilà, il y a plein de choses.
Ça change beaucoup de choses, quoi.
Bien sûr, je suis d'accord.
Vous retrouvez là-dessus ?
On se retrouve là-dessus.
Allez, on va
la paix.
Le calumet de la paix. En tout cas, on verra si suite il y a, si autant de suite il y a à ce Planète des Singes, Nouveau Royaume, qu'il y en a eu pour les précédents.
On a quand même, pardon, ça me fait penser très vite.
Coupe-moi, vas-y.
Oui, je te coupe totalement. On a toujours cette envie d'arriver au stade final qu'on a tous vu et connu dans le tout premier film La Planète des Singes. Et ça, c'est vrai que ça invite énormément à la suite et à continuer de voir le développement des singes et l'oppression de l'humanité.
Après, voilà. moi, j'ai eu l'impression dans ce film qu'il reprenait le film original et qu'il il prenait le point de vue d'un singe dans le contexte de l'original. Et qu'il y a des parallèles qui sont vraiment assez malins entre le film de 68 et celui de Westball.
Oui, la découverte un peu des humains par le singe.
Exactement. Exactement.
Pas normal qu'il parle.
Et qui sont vraiment, vraiment géniaux, enfin, je trouve. Voilà.
Et en parlant du film de 68, Gaël,
ben voilà.
je crois que tu nous as préparé un petit quelque chose, une petite déclaration d'amour.
Mais il faut parler absolument de ce film de 1968.
C'est l'heure du billet de Gaël.
Oh, je suis dans un arbre avec un homme qui parle au singe.
D'autant que, effectivement, c'est un chef-d'œuvre qui n'a pas pris une ride. Donc, on va faire, comme le héros de La Première Planète des Singes, voyager dans le temps. Mais si George Taylor, qui était incarné par Charlton Heston, va dans le futur, nous, on va donc retourner dans le passé. Donc, aux origines de La Planète des Singes, il y a un classique de la science-fiction réalisé en 1968. Un film dont le succès immense, on l'a dit, engendra 4 suites qui sont toutes plus ou moins réussies, je vous les conseille.
Plus ou moins.
Ouais, le dernier, par exemple, c'est plus moins que plus, et qu'on peut revoir vraiment avec, qui se revoit vraiment avec plaisir. Il y a eu une série télévisée, il y a eu des bandes dessinées, il y a même eu un remake en 2001. Alors j'avais écrit le plus mauvais film de Tim Burton, désolé Robin, mais alors, en fait, je me rends compte que t'es un peu de mon avis quand même.
Ouais, je pense que le film est intéressant, mais pas réussi.
Il arrive pas à dire.
Mais je pense qu'il y a bien pire chez Tim Burton en tout cas. Oui, Dark Shadows, je te parle.
Voilà. Et il y a donc le nouveau départ en 2011 avec les films de Matt Reeves. Le film original, lui. D'ailleurs, un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu comme le film de Westball, est une merveille narrative et visuelle. Les scénaristes étaient quand même Michael Wilson, celui à qui on doit le pont de la rivière Kwai, et Rod Serling, le créateur de la série La Quatrième Dimension. Ils prenaient des libertés avec l'histoire originale de Bull, plutôt humoristique, pour la rendre plus réaliste, sérieuse et la mettre au goût du jour. On est donc en 68, à la fin des années 60, et à l'époque, il y a la conquête de l'espace, la guerre froide, et en fait, le monde a la peur d'une catastrophe nucléaire, ce qu'on retrouve dans tout un tas de films américains. Ce n'est pas un hasard si La Planète des Singes est sortie en 1968, c'est-à-dire la même année qu'un autre titre essentiel de la SF moderne, 2001, l'Odyssée de l'espace. Si le film de Franklin G. Schaffner respecte davantage les conventions du cinéma d'aventure que le projet expérimental de Kubrick, les deux films, au fond, partagent beaucoup de choses. Voyage intergalactique, collision entre les origines de l'humanité et un futur angoissant, réflexion sur l'idée de la civilisation. Vous ne me voyez pas, mais je me tourne vers Lisa. Et donc, sur l'idée de civilisation, d'évolution et de violence à une époque et dans un pays, les États-Unis, où les théories de Darwin déchaînent les passions. Les films de Kubrick et de Schaffner furent à l'époque de véritables superproductions. Nous, cette année, on aura le droit à Deadpool et Alien Romulus. Hein. C'est juste pour vous donner à réfléchir. Hein. Mais mine de rien, ces deux films allaient faire sortir la SF de la série B et du bricolage pour la faire entrer dans l'ère des vrais blockbusters. Et c'est finalement La Planète des Singes qui décrochera la timbale au box-office mondial, ainsi que le premier Oscar pour les maquillages spéciaux créés à cette occasion. Mais si je voulais parler de ce film, c'était surtout pour deux raisons. D'abord, Franklin Schaffner, quasiment oublié aujourd'hui et qui fut pourtant un des plus solides metteurs en scène de la même trempe d'ailleurs que John Frankenheimer ou Sidney Lumet, tous formés à la télévision. On lui doit une brouette de chefs-d'œuvre comme Patton, Ces garçons qui venaient du Brésil, Papillon. Et Schaffner apporta clairement au projet une ampleur visuelle spectaculaire magnifiée par la musique contemporaine de Jerry Goldsmith. À mon avis, je vous regarde tous les deux là, franchement. Je pense que c'est la meilleure composition de Jerry Goldsmith. Mais tu vois, ça, c'est un bon quiz, quoi. Et puis, surtout, il y a Charlton Heston. Le cinéaste l'avait déjà dirigé dans le film d'aventure médiévale Le Seigneur de la Guerre, en 65. Mais La Planète des Singes doit énormément au charisme et à l'implication physique de sa star. Heston façonne ici son image de dur à cuire, de héros quasiment pré-Schwarzenegger. Regardez-le au début mâchouiller son cigare dans sa capsule. Si ça ne vous rappelle pas quelqu'un, c'est que vous avez raté Schwarzy dans tous les films entre 80 et 90. Il y a le même nihilisme, la même fureur, la même folie dans le regard. George Taylor, Charlton Heston est véritablement, à mon avis, l'ancêtre des héros de Mac Tiernan ou de James Cameron.
Et dans ce monolithe futuriste, il joue à merveille avec son image. Parce que, au fond, le premier Planète des singes raconte le voyage dans l'espace et le temps d'un homme mûr, ramené à un état primitif et enfantin, et qui se termine par une révélation cruelle et forcément destructrice. L'humanité entière, c'est lui, c'est Charlton Heston, à la fois victime et totalement coupable de la situation. Et c'est pour ça que j'aime ce film.
Merci Gaël. Très belle lettre pour mais ce ouais. Planète des singes de 68.
Non, c'est franchement
un des plus grands films de science-fiction jamais fait. Mais c'est vrai que la doublette entre ça et 2001, c'est folle.
C'est fou.
Sur
c'est
la
fou.
Même année.
T'imagines la même année, tu vois ça. Et alors on va.
Pour Robin, c'est un peu comme la même année en 95 où il y a Pocahontas et Braveheart. T'as deux films avec Mel Gibson, hein, d'ailleurs, je rappelle. Hein. Bah, c'est un peu. Bref.
Non, mais on va rien spoiler, mais le rapport avec 2001, l'Odyssée de l'espace, ouais. est complètement présent dans le film de Wes Ball. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc très étonnant jusqu'à la fin. Enfin, ouais. bon, c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment très intelligent.
Et alors, petit pas de côté, on parle, parce que depuis tout à l'heure, j'allais dire, c'est The Elephant in the Room, pour prendre meilleur accent, mais on parle de Tim Burton.
Ah. Ouais.
J'ai l'impression que vous avez envie d'en parler, de ce Planète des singes de Tim Burton.
Avec grand plaisir.
Non, mais lâchez les chevaux. Je veux dire, pour vous, il représente quoi, ce truc?
Alors, moi, en vrai, après, je pense que Gano ne sera pas du tout d'accord, mais je pense que ça joue au fait que j'ai découvert très jeune au cinéma. J'ai été absolument effrayé. Par la façon dont les singes s'emparent des humains quand ils arrivent.
L'excuse de la jeunesse.
L'excuse de la jeunesse, peut-être. Mais
c'est tout ce que t'as trouvé, Romain.
C'est
tout ce que t'as trouvé.
C'est le but du cinéma, l'émotion.
Oh, bah bon, mais voilà. Bah, je crois que tout est dit.
Non, mais vraiment, non, j'aurais dû signer ce que je disais au début, en fait. C'est vraiment désolé, Romain. Quoi.
Je crois que c'est Tim Ross, je crois, qui incarne le singe antagoniste, du coup, de du personnage principal, et j'ai quand même souvenir...
Interprété par le grand...
je repense à Mark Wahlberg.
J'ai repensé aussi, et vous avez vu mon hésitation. Mais quand même, je trouve qu'il y a la façon dont il arrive à instiller petit à petit la menace, l'angoisse et le danger des singes, plutôt réussi. Après, malgré ça, effectivement, le film tente de faire comme l'original et se rate à chaque fois. Ça, je suis assez d'accord.
Jusqu'à sa scène de fin, hein, qui essaie d'être un espèce de plot twist.
Scène de fin, ouais, qui est aussi ratée au possible.
Moi, quand je repense à ce film, je repense
à Tim Ross, moi, qui m'a effrayé.
Ah, moi, je pense à Michael Clarke Duncan.
Aussi.
Qui était extraordinaire en gris. Oui. Et ça, j'ai
Est-ce qu'il t'a effrayé aussi?
Oui, aussi. mais c'est un film qui me faisait peur.
Il faisait hyper peur. Attends,
mais moi, je mets pas ça sur le compte de la jeunesse. Il me ferait sûrement encore peur aujourd'hui.
J'ai souvenir aussi de justement ce regard de Tim Ross sur. Qui découvre. L'histoire et la mythologie justement des singes et qui gagne.
Il a hijacké le podcast là. Il est en train de.
Et qui gagne une espèce de fureur. De fureur dans le regard et dans l'action à l'encontre des humains que à nouveau je trouve réussi. Le reste ne l'est peut-être pas.
Eh ben
moi, le reste ne l'est peut-être pas. C'est-à-dire,
Lisa, reculons un peu parce que là, on va se prendre.
Non, mais voilà, c'est tout. Le film n'est pas très bien. Mais là,
quand je repense au film, je repense à une pub Tahiti Douche. Quoi. C'est vraiment c'est tout ce qui me reste de ce film quand il joue sous la
chalotte. J'espère pour toi que ce n'est pas un placement de produit déguisé. Gars, non, parce que ça va me coûter cher, cette histoire. Non, mais quel est ton rapport, justement,
je trouve ça totalement grotesque. Je trouve que c'est désincarné au possible. Tu vois, enfin, justement, en fait, Mark Wahlberg est un problème tel que, si tu veux, il n'y a pas de... Voilà, moi, je l'ai peut-être... Alors, tu vois, je vais prendre l'excuse de la vieillesse. Je l'ai peut-être vu trop tard. Et puis, surtout, habité par l'original. Mais je trouve que, ouais, pour moi, c'est un désastre de studio, quoi. C'est-à-dire que c'est...
Mais surtout que c'est marrant que tu dis désastre de studio parce que c'est un film qui a eu une histoire quand même très compliquée,
c'est pour ça, ouais,
qui a mis près de 10 ans à se faire. Il y a eu Peter Jackson qui est passé dessus.
C'est pas
eu...
lui en plus. Enfin, non, tu vois, c'est pas son...
Peter Jackson et sa femme, je crois, avaient proposé un scénario dessus. Il y a Arnold Schwarzenegger à un moment donné qui devait jouer dedans. Oliver Stone, je crois aussi, était un des noms qui avait été abordé dessus. Jusqu'à ce que ce soit Chris Columbus à la toute fin qui soit sur le projet. Enfin, tous les noms d'Hollywood ont été à un moment donné contactés pour ça. Et c'est vrai, quand on regarde le film, c'est un des films peut-être qui transpire le moins Tim Burton.
Totalement,
parce que même quand tu regardes Dumbo, par exemple, qui pourtant, sur le papier, n'est pas forcément le truc.
J'adore.
Moi, j'aime beaucoup Dumbo. Mais tu vois que c'est Tim Burton. La Planète des singes, À part le fait qu'il y ait Hélène Bonham Carter dedans, savoir, tu vois, c'est peut-être le plus gros indice, sans vouloir lui enlever, attention, quoi que ce soit.
Totalement. Après, je l'ai vu, j'avais 8 ans, je ne l'ai pas revu depuis.
Ah bon ?
Il faudrait peut-être
c'est
que
vrai
je m'attende. Ah oui, tout ce que je dis là, c'est souvenir de mes 8 ans.
Donc tout ce temps là, consacré, tout ce temps derrière un micro là, c'est un souvenir d'un gamin de 8 ans.
Exactement.
Ouais, remboursé, c'est le voyage, quoi, franchement.
C'est le voyage, ce podcast.
C'est le voyage. Parfait. La planète des singes, le nouveau royaume, Kingdom of the Planet of the Apes, 2h25 de film à découvrir donc en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema et en screening chez Pathé. Avant de terminer cet épisode, on fait un petit détour par un autre film et événement de la semaine, c'est Blue et compagnie, un film réalisé par John Krasinski avec Ryan Reynolds, Kylie Fleming et les voix françaises de Mylène Farmer et de José Garcia.
Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels?
Salut!
T'es qui toi?
Je suis un AI. Tu saisis? Un ami imaginaire. Je suis Blue!
Pourquoi? T'es violet?
J'en ai aucune idée.
Blue et compagnie, un film donc réalisé par John Krasinski. John Krasinski qu'on connaît essentiellement, enfin j'allais dire essentiellement, principalement, oui, de The Office, de son personnage de Jim Halpert.
Jim Halpert?
Tout à fait. Tu as envie de citer d'autres noms de personnages de The Office?
Pam and Jim?
Voilà, Pam and Jim, super.
Dwight.
Ah, je l'ai peut-être lancé sur quelque chose.
Ouais, voilà, tu peux me lancer sur...
John Krasinski, qui ensuite est parti à la réalisation de grands films. On parlait tout à l'heure de Sans un bruit.
Et deux d'ailleurs. Il a également réalisé le deuxième, avant de laisser sa place pour le prequel. Voilà.
Vous avez un spasme, monsieur? Qu'est-ce qui vous...
Oui,
c'est Back from the Dead.
En intro, on a dit qu'il a réalisé
là, tu vois, toi, tu disais que Tim Ross t'avait fait peur enfant. Moi, j'ai eu peur, là. J'étais en train de lire ma feuille et là, ce coup... Oui, mais très bien.
Voilà, c'était pour préciser qu'on a dit qu'il avait réalisé que le premier.
Non.
J'ai dit qu'il avait réalisé que le premier.
Merci.
Il a réalisé les deux.
Voilà, j'espère que tous nos auditeurs sont restés jusqu'à ce moment du podcast pour entendre la vérité, comme quoi c'est important de rester jusqu'à la fin pour entendre Robin s'auto-corriger.
Mais je m'auto-corrige quand je fais des petites erreurs.
Des petites, ça c'est pas à toi d'en juger. Tu laisseras le public.
Nos auditeurs.
Exactement.
N'hésitez pas à laisser vos coms, d'ailleurs.
Bien sûr. Merci pour l'engagement. Merci, ça fait du trafic, c'est gentil. Mais John Krasinski, donc on connaît évidemment pour The Office, qu'on connaît pour avoir réalisé et joué dans le premier opus donc de Sans un bruit, et qui s'occupera.
Et le deuxième,
il joue pas dans le deuxième.
Il réalisait le deuxième.
Mais j'ai pas dit qu'il avait pas réalisé le deuxième. Laissez-moi tranquille, monsieur. J'ai dit qu'il avait réalisé le premier et qu'il avait aussi joué dedans, ce qui n'est pas le cas dans le deuxième.
Mais il joue dans le deuxième aussi.
Mais il joue dans le deuxième.
Au début,
Non, je vous
demande. Au début, Robin.
Il a un caméo.
C'est la scène d'intro.
Ça, c'est quand même pas...
Ok.
C'est pas possible. Laissez-moi tranquille. Bon, bref. Dans tous les cas, on le retrouve ici avec Blue et compagnie dans un film qui n'a absolument aucun rapport avec ses deux premières propositions d'horreur.
En plus,
ça s'appelle une introduction. En fait, si t'as un problème avec ma façon de diriger la discussion, voilà, tu remplis un formulaire.
C'est parfait. Avec...
Contact à pâté.com.
Exactement. Mais voilà, il retrouve Ryan Reynolds pour ce film-là. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un espèce de Pixar en live action. Au final, parce que tout le pitch, c'est si les amis imaginaires prenaient vie, qu'est-ce qui se passerait, quoi. Et donc, on va suivre deux personnages qui vont vivre tout un tas d'aventures, justement, avec ces personnages imaginaires qui prennent vie autour de lui.
Ça fait quand même penser à Vice Versa, effectivement, et à la place de l'ami imaginaire.
Ça fait
dans
penser à
l'esprit
Bing
de
Bong.
Exactement. Et à la place, à la fois des émotions et de la construction, en tant qu'enfant, puis adulte, de ces amis imaginaires. Et on a eu, alors c'est un tout autre genre et un tout autre sujet, le film d'horreur, Imaginary, il
n'y
a pas longtemps, qui s'amusait également avec les amis imaginaires, mais sous le prisme de l'horreur et de l'effroi.
Ouais, des traumatismes. Ouais.
Spike Jonze avait travaillé ça aussi avec Max et les Maxi Monstres, qui était un très 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 beau film, je trouve.
Blue Company, d'ailleurs, un film qu'il écrit également, en plus de réaliser, et il donne le rôle-titre donc, à Ryan Reynolds et il donne d'ailleurs les voix de ses personnages en VO à vraiment l'entièreté d'Hollywood. Hein. Je crois qu'il y a Matt Damon, il y a Emily Blunt qui est sa femme, il y a Steve Carell,
Sam Rockwell.
Ouais, c'est vraiment affolant. Bon, après je pense que c'est pour des micro répliques. Hein. Je pense que Ryan Reynolds à mon avis a ouvert son agenda, son carnet d'adresses plutôt et a appelé tout le monde. Reynolds qu'on retrouvera bien sûr dans Deadpool et Wolverine. Tu en parles tout à l'heure, Gaël.
C'est vrai,
un entre-genre, un peu moins family friendly. Un tout petit peu moins.
Qui sait.
Blue et compagnie, If, donc de John Krasinski, c'est à découvrir cette semaine au cinéma chez Pathé. Revenons sur les bonnes raisons, avant de terminer cet épisode, d'aller découvrir un film que nous avons vu, c'est La planète des singes, le nouveau royaume. Pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma ? Gaël.
Moi, je dirais pour le ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le mélange de la superproduction et de la série B, et un production design qui m'a vraiment beaucoup plu.
Robin,
moi, je dirais pour la façon dont l'héritage de César est traité et infuse le film du début jusqu'à la fin.
Elisa ?
Moi, je dirais pour une raison qu'on n'a pas citée quand même tout à l'heure, qui est il y a une touche d'humour en fait qui est apportée dans le film,
ah oui,
avec le personnage de Raka, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai beaucoup aimé sa personnalité de grand sage et en même temps son allure un peu absurde et sa dynamique avec Noah. C'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le film.
Et moi, j'ajouterais pour les effets visuels, tout simplement, de cette méga production, comme le disait Gaël tout à l'heure. On arrive à un niveau de détail et et d'immersion dans ce monde qui est vraiment assez incroyable. Et puis aussi, tout ce travail sur les décors, en fait, de rendre des paysages humains et, on va dire, civilisés que nous, on connaît dans ces espèces en ajoutant cette faune et cette flore après plusieurs siècles d'abandon. Et c'est très, très impressionnant à voir sur grand écran. Mardi prochain, l'ouverture du Festival de Cannes et sa cérémonie sera à retrouver dans les cinémas Pathé avec la projection du nouveau film de Quentin Dupieux qui s'appelle
Deuxième acte.
Le deuxième acte. Bravo Lisa, tu gagnes un point. Donc Robin n'en a pas aujourd'hui. Alors ça, je ne peux pas m'avancer à ce point-là. Ça faudra demander à Gaël qui s'occupe de toute l'organisation du Festival de Cannes. Tu sais qu'il y a des micros, hein. Tu sais qu'il y a des...
Je suis dessus. Je suis dessus.
Là, c'est...
Allez, c'est... À la plage.
Salut. Allez.
Mais tu m'entendais pas, c'est bizarre.
Non,
j'ai une voix qui porte.
Il était en train de fermer la porte derrière lui.
Ça faisait très un jour artistique.
Ouais, c'est ça, genre.
Je sais pas. Je suis à Cannes, moi.
Parler à trois bornes du micro, c'est nickel. Tout ça dans un podcast entièrement sonore. bref. La planète des singes, le nouveau royaume Blue et compagnie, c'est donc l'actu de la semaine chez Pathé. Merci à vous trois d'avoir été là autour des micros du podcast pour cet épisode. Merci Gaël.
Merci.
Merci Robin.
Merci beaucoup.
Et merci Lisa.
Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour justement parler de l'actualité cannoise, puisque le festival commencera tout juste de sa sélection des plus grosses attentes et j'en passe. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.